1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Et je suis Ray Lema.
Je suis Robert Mishraï.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping pong, il sera question de philosophie du bonheur, de jazz attitude et même de ping pong.
Avec le musicien polyinstrumentiste, compositeur et un brin d'oki, sorcier, Ray Lema, venu à notre rencontre, auréolé de son nouveau disque, Headbug, paru sous le label One Drop, un album en quintette et une musique qu'il nous invite à partager en concert le 26 mai dans le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et dès ce soir, pour de vrai, dans Ping Pong.
Et avec le philosophe spinoziste Robert Mishraï qui défend et illustre son éthique de la joie à travers deux ouvrages, l'un sur les expériences effectives des formes de joie, y compris au ping-pong, c'est aux éditions Le Bord de l'eau, et l'autre aux éditions Encre Marine, sur le chemin littéraire et philosophique qu'il a mené de l'angoisse à l'accomplissement, autant dire qu'on a envie de le suivre.
Et ensemble, ils nous parleront de sonorités luxuriantes, de fraternité, d'improvisation et de désir majuscule.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, ping-pong.
Avec lui, foin de soleil noir, de la mélancolie. Lui, le philosophe décidé à échapper au déterminisme de ce qu'il nomme les obscurités. Lui, qui enfant, décousit l'étoile jaune qu'on avait voulu l'obliger à porter. Lui, qui fut ébloui à la lecture de L'être et le néant et d'un certain Baruch Spinoza. Et qui depuis se voue à une exigeante trinité laïque, liberté, réciprocité et joie.
Sa philosophie, à lui, c'est « J'échange, donc je suis ». Compositeur, pianiste, guitariste, percussionniste, chanteur, on le dit, aventurier musical, polytalentueux. Celui qui est né Raymond Lema Ansi Nzinga en République démocratique du Congo avant de rejoindre les États-Unis puis la France, n'a cessé de tresser les genres, de décloisonner les catégories. Formation classique, groupe de rock, rythme zaïrois, mélodie brésilienne, voix bulgare, trance sahélienne, opéra panafricain, musique de film et de pièces de théâtre. Et aujourd'hui, c'est un jeune musicien de jazz.
Lui, c'est donc le philosophe Robert Mishraï qui, pour fêter avec nous ses 90 printemps, tout en restant fidèle à sa manière de tout renverser, vient les bras chargés de présents, en l'occurrence deux essais, Les voies de l'accomplissement chez Encre Marine et Intensité, lumière sur les petits bonheurs de la vie quotidienne et des loisirs, publié aux éditions Le Bord de l'eau.
Lui publie un nouvel album, ça s'appelle Headbug, mais ça n'est pas une prise de tête. Attention, il s'agit beaucoup plus de mouvement. On en reparlera. C'est paru sous le label One Drop et c'est avec son quintet hexagonal. Alors, on vient d'entendre au marimba Manu Dibango, qui fait partie des invités de votre album Headbug, Ray Lema. Vous dites que vous arrivez un petit peu sur la pointe des pieds dans le jazz. Vous êtes vous-même, donc, comme je le disais, un jeune musicien de jazz.
On peut le dire parce que, vous savez, le jazz aujourd'hui, c'est une institution qui est très formatée. Ça s'enseigne dans des universités, des conservatoires. Et quand vous faites un pas de côté pour certains puristes, vous n'êtes plus jazzman du tout. Donc, moi, je suis en train de profiter d'une parole de Miles Davis pour me glisser sournoisement dans la place, mais je suis très intimidé quand même.
On va redire cette parole, hein. Le jazz n'est pas une musique, c'est une attitude.
C'est une attitude.
Robert Mishraï, vous, je ne sais pas si vous êtes pianiste, en tout cas vous êtes joueur de ping-pong, puisque dans Intensité, votre nouvel essai paru aux éditions Le Bord de l'eau, il y a en effet une partie de ping-pong, un chapitre intitulé « Le ping-pong sur la plage et la transmutation ». Mais alors quelle est l'origine de cette comparaison avec le ping-pong? C'est effectivement une partie sur la plage?
Je vais essayer d'expliquer tout ça. Mon but est de dégager, à partir d'une activité simple, simple et ludique, comme le ping-pong par exemple, de dégager ses significations les plus profondes et souvent inaperçues. Plus précisément, Le ping-pong, tout le monde le sait. Je ne suis pas praticien de ping-pong, mais je sais ce que c'est. Le ping-pong est un échange. Mais c'est un échange qui est un sport. Un sport, c'est-à-dire un combat, c'est-à-dire une compétition. Si on creuse, on s'aperçoit que le ping-pong est une forme nouvelle de la guerre. Pourquoi la guerre ? Parce que dans la guerre, lorsque un ennemi nous agresse, on lui répond par l'agression. Si un ennemi nous propose l'amitié, il peut se faire qu'on lui réponde par l'amitié. Ce qui veut dire que, dans la spontanéité de la vie, pour tout le monde, tous les jours, ce qui se passe, c'est une réponse aux actions des autres en miroir. Une réponse que j'appellerais en ping-pong. Mais naturellement, nous savons bien que le ping-pong n'est pas la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les joueurs de ping-pong, sans trop le savoir, prennent une attitude traditionnelle, la guerre, coup pour coup, et la transforment. Ils la vident de son agressivité, ils mettent seulement en évidence le jeu et ce que je vais commencer à appeler, non plus comme tout à l'heure, la réversibilité, mais maintenant, la réciprocité. Pourquoi réciprocité ? Parce que ce sont deux copains qui jouent au ping-pong, ou bien oui. Deux sportifs. Ce sont deux copains ou deux sportifs qui sont en amitié relative, plus ou moins intense, mais en amitié. Ce qu'ils déploient, paradoxalement, au-delà de la guerre, c'est la joie de vivre. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils prennent du plaisir, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et le plaisir vient du fait de la complémentarité de deux individus identiques qui ne font une compétition que pour le fun, et non pas pour la domination réelle.
Donc la joie se fait dans la réciprocité et puis la réversibilité ?
Non. La réversibilité.
Réversibilité, pardon.
Non, c'est le début. La réversibilité, c'est le. Tu me frappes, je te frappe. Tu m'offres un cadeau, je t'offre un cadeau. La réversibilité, c'est l'échange un peu dérisoire, le calcul. Qui permet aussi l'élaboration de la création du droit, naturellement. Mais il faut aller au-delà. Et alors, au-delà de la réversibilité, à ce moment, on a la réciprocité. Et qu'est-ce que la réciprocité ? Je te donne sans rien attendre. Et je suis tellement heureux quand tu me réponds et que tu me donnes.
Mais c'est un Réléma, échange. Justement, oui, est-ce qu'on peut parler d'un échange comparable, non pas entre les joueurs de ping-pong, mais entre les musiciens, peut-être singulièrement les musiciens de jazz ? Vous dites que vous êtes opposé au combat stérile des solistes. Il y a peut-être un combat stérile dans la guerre. En revanche, dans la réciprocité, le jeu, non, et on joue du jazz.
J'allais intervenir sur le sport.
Ah.
Je pense que ce que vous décrivez, c'est l'idéal de l'esprit sportif. Mais le sport, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce que vous décrivez. Mais... Vraiment, n'en déplaise. Hein. Parce que j'ai pu côtoyer certains sportifs et ils y vont avec... comment je pourrais dire ça ?
Âpreté.
Avec une âpreté qui n'a plus rien du plaisir simplement d'échanger avec quelqu'un en face. C'est bien vraiment sûr. Le désir d'être au
le
top.
Plus fort.
Oui.
Absolument.
C'est pour ça que vous précisez que vous parlez des loisirs plutôt que du sport, d'ailleurs, dans votre
ouvrage. Ah oui. Le sport actuel, je suis tout à fait d'accord avec vous, le sport actuel, c'est la guerre.
C'est
la,
une guerre.
La guerre, la volonté de puissance et la convoitise pour avoir, et la gloire et les sous.
Exact.
C'est misérable.
Bah, écoutez.
Et le... c'est misérable, mais le sport... De la musique. Justement, je sais que vous aimez bien, Réléma, faire la distinction entre ce qui peut être une carrière humaine, humaniste, artistique, et ce qui peut être une carrière dans le show business, qui, comme le sport business, hein, peut indiquer justement une forme de combat un peu acharné. C'est vrai que vous aviez peint une Europe où les voix de solistes se combattaient stérilement. Comment est-ce que vous regardez, vous, justement, ce grand décloisonnement promis par la Sono mondiale au début des années 80 ? Est-ce que ça peut encore exister? Est-ce que vous le pratiquez, vous?
Il y a quand même, il faut faire la part des choses. Il y a dans la musique, on parle seulement de musique, mais il y a au départ les instrumentistes, et puis il y a actuellement les chanteurs entre guillemets vedettes, parce qu'il y a des chanteurs qui ne sont pas, qui ne deviennent pas chanteurs par védétariat, qui sont des instrumentistes de la voix.
Et vous montrez votre gorge à ce moment-là.
Oui, oui, il y a vraiment des chanteurs qui apprennent la discipline par le plaisir intense de communiquer cet art de la voix, parce que c'est un art extraordinaire. Bon, donc, quand on fait la distinction entre les instrumentistes qui arrivent dans la musique par une passion d'un instrument, moi, j'ai la chance de produire d'autres jeunes artistes. Et souvent, je pose la question. Quand le jeune artiste m'appelle, « Ah, monsieur Elema, blablabla, je veux de faire la musique. » Je lui pose toujours la question, « Mais pourquoi tu veux faire la musique ?» Et vous savez que environ 60% répondent, « Ah, parce que moi, il faut que j'ai décidé, il faut que je sois une vedette. » Et je suis obligé de lui dire, mais vous savez que vous pouvez devenir plus facilement vedette en vous baladant à poil à travers Paris qu'en faisant de la musique, parce que c'est un métier qui peut être vraiment dur. Et ils comprennent pas toujours pourquoi je leur dis ça. Ils confondent la passion de la musique et le végétariat. C'est pour ça que je parle souvent du showbiz. Le showbiz aux États-Unis, et puisque c'est un mot anglais, ça dit exactement ce que ça veut dire. The business of showing. C'est, hello, c'est ça, c'est un business. Mais à côté de ça, ils confondent pas aux États-Unis. Quand on vit aux États-Unis, ils ont des grands musiciens qui vivent très bien, qui ne sont pas confondus avec le showbiz. Et qui sont reconnus grands musiciens parce que eux, ils font la différence entre les deux.
Robert Misrahi.
En somme, là, je suis bien d'accord. En somme, ce sur quoi vous insistez, c'est sur le fait de faire la nécessaire distinction entre ce qu'on va appeler, avec des guillemets, les instincts basiques, le végétariat, la volonté de puissance, le business,
oui,
qui est le premier stade de la pensée humaine,
vraiment,
le stade basique, le stade instinctuel, entre guillemets, il n'y a pas d'instinct, mais c'est la conscience la plus obscure. Et vous insistez sur le fait que il faudrait au contraire s'apercevoir qu'il y a un autre niveau et que ce niveau est celui d'une activité pensée, donc réfléchie. Parce que dans mon projet, qui rejoint le vôtre au fond, dans mon projet, ce que je souhaite, c'est de faire comprendre à ce qu'on va appeler, mais avec affection, la conscience commune. Mon projet est de faire comprendre à la conscience commune que si elle fait un effort d'attention et de réflexion, d'attention sur ses activités les plus simples de la vie, elle va découvrir des abîmes de joie et de jouissance. Naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Je ne prétends pas que lorsqu'on a bien vécu une joie profonde dans une bonne partie de ping-pong avec des amis qu'on aime bien, j'allais dire du whisky, j'en bois jamais, après, enfin, tout ce que vous voulez, la tentation est de s'arrêter là. Je ne prétends pas, c'est le malentendu à éviter, je ne prétends pas qu'à ce stade, on est déjà dans le bonheur dans sa plénitude. Alors pourquoi m'intéresser à ce stade? Parce qu'il va être une préparation. Si on invite les gens à réfléchir sur leur quotidien, ils vont devenir des gens qui réfléchissent.
C'est dans la quête de la joie et dans cette recherche que Spinoza découvre la joie dans un premier temps. Donc vous nous invitez au même mouvement. Relema veut réagir.
Moi, il y a une question qui me vient directement à l'esprit parce que moi, je suis né au Congo et j'ai fréquenté les traditionnels de chez moi, vraiment la base. Le direct de la campagne, quoi. Et donc, quand je regarde la sophistication de la langue française, j'ai envie de vous poser la question. Quelle est philosophiquement la différence entre le plaisir, la joie, le bonheur? Vous pouvez m'expliquer les trois termes pour que je...
Et juste que vous nous le disiez, il y a un terme pour vous qui résumerait l'ensemble?
Non, justement, parce que chez nous, dans ma langue, le Lingala, nous n'avons que joie et tristesse. Le bonheur,
et ça se
c'est
dit
une
comment?
Notion... Le bonheur, justement, on ne connaît pas ce concept où...
C'est durable, où, c'est un état durable.
Mais oui, justement, parce que chez nous, nous pensons que dans le durable, tu ne peux jamais séparer le dur et le l'agréable. Tu ne peux pas les séparer. Chez nous, c'est simple. Quand par exemple, on va à des funérailles, ça choque souvent les étrangers. On commence par pleurer, mais alors les pleurs chez nous, on se jette par terre, on s'arrache les cheveux, et puis, au milieu de la nuit, brusquement, on sort les tambours et tout le monde commence à danser, mais... Et les gens nous regardent en se disant, mais vous êtes quand même bizarre. Hein. Comment vous pouvez passer comme ça de cette tristesse, cette douleur, comme... et puis vous passez direct à une joie tellement, tellement effrénée.
Robert Mesrahi vous répond sur la distinction donc, entre joie, bonheur
et
plaisir.
Il faut qu'il me réponde sur ce, juste parce que le français est une langue qui est quand même très sophistiquée, donc j'aimerais bien qu'il m'éclaire.
Je vais essayer de répondre avec précision. Je vais essayer d'être clair.
Oui.
Le plaisir n'est pas un événement simplement physiologique, il est un événement physiologique et une conscience. Le plaisir d'un éclair au chocolat, c'est riche. C'est riche, mais ça va pas loin. Une fois qu'il n'y a plus d'éclair au chocolat, ben, il n'y a plus de plaisir. Et de toute façon, le plaisir n'a pas d'autre sens que la jouissance instantanée. Mmh. Conséquence, il ne donne pas un sens à l'existence. C'est pas vrai, les hédonistes se trompent.
Alors, même dans l'accumulation?
Ah ben l'accumulation, c'est la destruction. Ah, vous avez raison.
Lema imagine Mathilde dans une pâtisserie.
Ah, oui, oui.
Je pose une question d'hédoniste, je représente les hédonistes. Exact. Je pose une question.
Oui, mais poussez votre logique à l'extrême, vous vous détruisez.
Bon, très bien.
Si vous passez la demi-journée à manger des
éclairs,
vous êtes perdu. Donc le plaisir, oui, mais pas n'importe comment, et pas pour lui-même, pour autre chose. Quoi ? La joie ? Oui, mais quelle joie ? Alors d'abord, définition générale. J'essaye, hein. Vous m'arrêtez si c'est obscur. La joie est un sentiment de soi-même comme étant une cohérence. La joie est le plaisir spirituel et dynamique, de la cohérence entre soi-même désiré, il y a un instant, et soi-même vécu maintenant. Je suis dans la joie. J'ai très envie de venir à France Culture. Puis un beau jour, on vous invite. Ah, c'est fabuleux. Oui, d'accord, c'est bien, c'est les premiers niveaux de la joie. Mais, ça serait la même chose pour un gain à la loterie. Je regarde les numéros, j'ai gagné, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai fait pour ? Rien. Donc, il y a des plaisirs qui passent vite et qui sont insuffisants. Mais je ne jette pas le discrédit sur le plaisir, hein, c'est pas coupable. Le plaisir, c'est bien. C'est bien, mais c'est trop peu, c'est pas assez. Alors quoi, la joie ? La joie, oui, mais quelle joie ? Pas la joie d'avoir gagné à la loterie. Pourquoi ? Parce que la joie d'avoir gagné à la loterie ne dépend pas de moi. Elle est la conséquence d'un événement extérieur sur lequel je peux rien, c'est une surprise.
Comme le plaisir. Quelque part, comme le plaisir.
C'est comme le plaisir, tout à fait. Alors vient la vraie joie, celle à laquelle je songe. Et je l'appelle la joie active. Je la distingue de la joie ordinaire, parce que j'ai pas d'autre mot. Mais c'est un peu différent. La joie active, c'est quoi ? D'abord, le sentiment de sa propre cohérence. Le sentiment d'avoir atteint cela que l'on désirait. Le sentiment aussi de la création. Quand je crée quelque chose, vous en êtes un exemple, vous en avez parlé très bien. Quand je crée quelque chose, je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour mille raisons. D'abord parce que ce que j'ai créé, un poème, une œuvre musicale, un texte, une chorégraphie, ce que j'ai créé me donne par lui-même un plaisir spirituel et dynamique, un plaisir corporel et spirituel simultané. C'est déjà ça. Mais en plus, non seulement il y a joie de la création, mais joie de l'accomplissement. La vraie joie, c'est la joie active comme accomplissement. Alors ici, je dois préciser encore, vous avez raison d'insister sur la richesse de la langue française. Accomplissement ne veut pas dire, comme trop souvent on le croit, réalisation d'un inconscient ou réalisation de désirs anciens. C'est pas ça. Parce qu'en réalité, la conscience humaine qui vise à la joie, elle se crée. L'accomplissement est la mise en réalité, la réalisation d'un désir qu'on a d'ailleurs créé soi-même. Par exemple, vous écrivez une pièce...
Réléma,
je parle trop. Hein.
Dubitatif, non, pas du tout.
Non.
Voilà, alors la vérité, vous m'avez dit tout à l'heure, si vous voulez, vous vous jetez sauvagement sur le micro.
C'est ce que vous faites admirablement.
Vous faites bien, ouais. J'espère que c'est une joie active.
Voilà, c'est une joie active. Ah, vous commencez... Pardon, excusez-moi.
Écoutez, je suis ravie d'être votre élève, là, je le suis instantanément.
Mais
voilà.
À ce propos...
Vous avez compris, vous êtes sur la voie, là, vous êtes sur la voie.
À ce propos, je propose à Réléma de se prêter, de se livrer à une joie active au piano, qui est juste derrière nous, puisque vous avez accepté aussi cette proposition, et de nous offrir une joie pour laquelle on ne peut rien, mais qu'on va goûter et savourer.
Elle dépend un petit peu quand même de notre liberté. Hein. C'est vrai qu'on était au-dessus de l'abîme de la liberté et que tout d'un coup, on l'a saisie en invitant Réléma et en lui proposant un live. Donc vous êtes d'accord ?
Oui. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de demander à notre ami deux choses ? D'abord et principalement, comme vous venez de le faire, qu'il joue une de ses œuvres. Et deuxièmement, qu'il joue quelque chose que je vais lui proposer.
Quelque chose que vous allez me proposer.
Jambalaya. Vous ne connaissez pas ça ?
Non.
C'est un chant populaire, country.
Mais pourtant, vous avez en commun, vous avez du Mozart. Vous aimez la joie mozartienne.
Mozart
Robert Mesrahi et Réléma, qui voulait être prêtre.
Vous aussi, Mozart.
A commencé au piano avec du Bach et du Mozart.
À l'orgue même, oui.
Oh, mais alors c'est formidable. Vous voyez bien que l'extrême peut se réaliser. Voici un joueur de jazz qui connaît Mozart, qui rencontre un philosophe qui ne jure que par Mozart. Avouez, ça c'est grâce à l'émission Ping Pong.
En fait,
c'est grâce à Ping Pong.
Réléma, vous n'avez pas de micro, attendez, qu'est-ce qu'on peut...
Hein, mon premier concert en public, ce fut cette pièce ici.
C'est sublime, oui, bien sûr.
Sonate au clair de lune de Beethoven.
Bien sûr. Mais alors là, on a un exemple, vous avez bien choisi, on a un exemple de la signification profonde, un exemple simple, clair, bien ramassé, de la signification profonde de la musique. Elle nous met dans ce que j'appelle le substantiel. On est dans le temps, mais on n'est plus dans le temps. On est dans le matériel, parce que ce sont des sons, mais on n'est plus dans le matériel, parce que c'est une jouissance de l'esprit. C'est-à-dire que là, la musique, elle est l'art suprême, parce qu'elle indique, elle implique absolument tout. Mais, il manque un tout petit quelque chose à la musique, les paroles.
Les paroles, vous voulez des paroles ?
Je veux des paroles.
Oh my God. Bon, je vais commencer d'abord sans parole.
Je
Rélema, applaudissements en live au piano dans le studio. Ça n'était pas le chant traditionnel de country que Robert Misraël lui avait réclamé. Parlez-nous de ce titre une seconde avant le journal de la culture.
Ce titre s'appelle Matongé. Matongé, c'est un quartier de Kinshasa. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé Matongé, c'est juste par humour, parce que ça, en fait, ça ressemble beaucoup à un morceau de Bach, la mélodie. Je suis un grand fan de Bach et ça m'a fait plaisir de coller sur un titre qui ressemble à du Bach, le nom d'un quartier de Kinshasa, quoi.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission dont l'essence est, comme celle de l'être humain, selon Robert Misraï, une sociabilité heureuse.
Et dans cette émission Ping Pong, on souhaite accorder une vraie place à la culture artistique, car ça élève le peuple, comme le dit Rélema. Ce sont nos deux invités à suivre.
Il y a la culture artistique et l'actualité de la culture et des arts. C'est tout de suite avec Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir, bonsoir Zoé. Monsieur.
Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier non pas à une entreprise de réciprocité, d'amitié, de fraternité, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais à une polémique très violente autour de la participation du chanteur Black M aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Ce rappeur a été invité par le maire socialiste de Verdun, Samuel Hazard, à donner un concert le 29 mai prochain, à la fin des commémorations, mais il a dû faire face à un tollé venu de droite et d'extrême droite qui l'ont conduit finalement à annuler ce concert aujourd'hui.
Oui, alors pour rappel, Black M, qui s'appelle Alpha Diallo, qui a 31 ans, est un rappeur français, ancien membre du groupe de rap Section d'Assaut, qui rencontre un très très grand succès aujourd'hui auprès des jeunes. Alors, le choix de l'inviter pour commémorer Verdun a été donc fait par le maire socialiste de la ville, Samuel Hazard, mais il a très vite été critiqué par l'extrême droite, on peut le dire, en début de semaine, qui a ressorti de derrière les fagots les paroles d'une chanson du groupe Section d'Assaut, intitulée Désolé, où le chanteur qui s'adresse à ses parents leur dit dans la chanson « Je me sens coupable quand je vois tout ce que vous a fait ce pays couffard ». Alors je rappelle que couffard est un terme péjoratif qui signifie notamment mécréant et qui est souvent utilisé aujourd'hui par les groupes djihadistes pour désigner les occidentaux. Tout de suite, Florian Philippot du FN y a vu, je cite, un crachat contre le monument aux morts, tandis que la députée Les Républicains Valérie Boyau dénonçait une honteuse provocation avec cette invitation. À ces arguments s'ajoute l'interview donnée par Black M au journal L'Est Républicain il y a 4 jours où il déclare à propos de ce concert qu'il a accepté, je cite, parce que c'est de la scène et qu'on va s'amuser. Pour l'historien Nicolas Offenstadt, spécialisé dans la Grande Guerre, auteur de plusieurs ouvrages sur la question et qui est le conseiller scientifique de la mission du centenaire, c'est surtout cette interview et globalement le contexte de cette invitation qui est aujourd'hui problématique.
Il y a deux choses, c'est qu'il est indispensable de moderniser les commémorations. On ne peut plus, à l'heure du centenaire, continuer à faire des cérémonies devant les monuments aux morts, continuer à faire des cérémonies devant les ossuaires, avec des porte-drapeaux et quelques discours politiques plus ou moins de qualité. Il était évident qu'il faut trouver des formes de modernisation des commémorations. Et à mon avis, les concerts sont une des très bonnes formes de modernisation. En ce sens, l'idée d'un maire de vouloir clôturer une commémoration très importante comme celle du 29 mai avec un événement artistique, c'est évidemment une très bonne idée. Ensuite, il y a événement artistique et événement artistique. Ce qui m'a posé question et qui me pose question pour le choix du maire de Verdun, c'est qu'il n'y a eu manifestement aucun lien qui a été fait entre le concert et la commémoration. Et donc, est-ce qu'on peut simplement poser sur une commémoration un événement artistique sans faire le lien, hein, comme c'était clairement dit dans l'interview de Black M, il dit que ça va être un spectacle, c'était pour les jeunes, mais on ne voyait pas comment ça allait s'inscrire. Donc je pense que quand on fait une commémoration, il faut penser le spectacle dans la commémoration.
Et le maire socialiste de Verdun, Zoé, Samuel Hazard, a donc finalement décidé de renoncer à ce concert.
Oui, dans un communiqué très grave où il se dit très fatigué, le maire regrette, je cite, une polémique d'ampleur sans précédent qui a été orchestrée selon lui par l'extrême droite. Nous assistons à un déferlement de haine et de racisme. Il craint aujourd'hui de véritables troubles à l'ordre public. Il se dit menacé, harcelé par téléphone. Il est vrai que la blogosphère identitaire n'a cessé de répandre le numéro de la mairie de Verdun pour faire pression. Il dit surtout, eh bien, que c'est difficile à vivre. Je suis fatigué. fatigué et atteint psychologiquement. On voit bien que dès qu'il y a une polémique, vous vous retrouvez seul, car effectivement, il indique que cette décision, eh bien, elle a été prise collégialement avec l'État, mais que, juste à la dernière minute, le secrétariat des anciens combattants l'a complètement lâché, et que la mission du centenaire a décidé de ne pas donner sa subvention de 767 000 euros si le concert avait lieu. Un petit-fils de Poilu a même porté plainte par la voix de son avocat, Maître Antoine Bocquier, par ailleurs proche de Claude Goasguen, Les Républicains, et membre du Parti démocrate chrétien que j'ai pu joindre tout à l'heure.
Mon client est le petit-fils d'un soldat médaillé à Verdun qui a passé quelques mois sur ce champ de bataille, qui a été particulièrement choqué de savoir que ce chanteur serait invité à commémorer cette bataille qui a été terrible, compte tenu des textes qu'il produit habituellement, compte tenu du fait qu'il a invité les jeunes à venir s'amuser à la commémoration de Verdun, eh bien, ce petit-fils de Poilu a considéré qu'il y avait eu de la part de l'État une erreur manifeste d'appréciation en choisissant un tel chanteur pour participer à cette commémoration. Et mon client n'était pas convaincu que ce chanteur soit la personne la plus adaptée pour honorer la mémoire des milliers de soldats qui sont morts sur le champ de bataille de Verdun. Il était même très choqué de ce choix. Voilà, à partir du moment où le concert est annulé et que des choix plus raisonnables sont effectués, on cesse de polémiquer, on se réjouit de cette décision enfin raisonnable.
Et le chanteur Black M a lui réagi, Zoé, par un communiqué il y a quelques minutes.
Oui, il a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux où il explique qu'il déplore les propos haineux dont il est victime ces derniers jours. Il précise avoir ressenti une immense fierté lorsqu'on a fait appel à lui pour participer à ce concert en marge de la commémoration de la bataille de Verdun, qu'il a été éduqué en France, terre d'accueil de ses parents, qu'il a vu grandir, une terre pour laquelle son grand-père, Alpha Mamadou Diallo, d'origine guinéenne, a combattu lors de la guerre de 39-45 au sein des tirailleurs sénégalais. Et justement, l'historien Nicolas Hoffenstadt m'expliquait que, en tout cas, les accusations racistes ou les déferlements d'extrême droite n'étaient absolument pas tolérables.
Qu'on fasse appel à un artiste comme Black M, pourquoi pas ? Enfin, quand on évoque le fait qu'il soit noir ou qu'il fasse du rap, il faut quand même rappeler qu'il y a des centaines de milliers de soldats issus des colonies qui se sont battus, donc il fait partie de cette mémoire comme les autres. Donc ensuite, qu'il y ait des déferlements racistes, ça n'a aucun sens par rapport à l'histoire de la Grande Guerre. C'est oublier que c'était pas une guerre de blancs. Donc en ce sens, pourquoi pas du rap, pourquoi pas des musiques qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a de nombreux chanteurs contemporains qui ont utilisé la mémoire de la Grande Guerre pour dire quelque chose sur le contemporain. Ben Bob, qui est un chanteur afro, a fait une très belle chanson sur les enfants et la Grande Guerre. Le chanteur de Massilia Sound System, Moussuté, a fait une très belle chanson sur sa famille dans la Grande Guerre.
Voilà, alors en tout cas, le 29 mai, il n'y aura pas de concert de Black M. On ignore jusque maintenant si ce concert sera remplacé par un autre ou si les commémorations s'arrêteront juste avant.
On passe au bref, Zoé, avec une disparition foudroyante.
Oui, la disparition de Christophe Lambert, pas l'acteur, mais le producteur de cinéma qui, aux côtés de Luc Besson, a fait de leur maison de production EuropaCorp l'une des plus puissantes d'Europe. Après une brillante carrière de publicitaire, il donc s'associe au cinéaste français, tout d'abord pour une société de publicité, où il amène des clients comme l'OMP. C'est lui qui apportera à Luc Besson notamment tous ses contacts politiques, avant finalement de prendre la tête d'EuropaCorp. Il avait finalement quitté la société après 10 ans de collaboration, à cause d'une brouille définitive avec Luc Besson. Il comptait se lancer dans des projets personnels, mais est mort d'un cancer foudroyant à 51 ans.
Pendant ce temps-là, à Cannes, la filière du cinéma français signe un accord historique en matière de distribution.
On en avait parlé ici, rien n'allait plus, vous le savez, en matière de distribution et de régulation des films qui souvent sont morts avant même d'avoir existé en salle. Un accord signé aujourd'hui organise maintenant le chaos. Il prévoit notamment que tous les films auront la possibilité de rester au moins 2 semaines à l'affiche. Il prévoit une meilleure distribution des films d'arrêt d'essai dans les zones rurales. Et en termes d'engagement de programmation, qui était jusque-là limité aux établissements qui disposaient d'au moins 8 écrans, ils sont étendus à ceux qui possèdent 6 écrans.
Robert Misrahi, vous réagissiez en écoutant le dossier du Journal de la Culture de Zoé Sfez.
Oui. Ne prenez pas mal ce que je vais dire. Je le dis en toute cordialité, étant tellement heureux d'être ici, invité par vous, donc ne voyez aucune agression dans ce que je vais dire. Mais je regrette que vous n'ayez pas consacré, que vous ne puissiez pas consacrer une heure entière à la question du bonheur. Une heure entière, c'est pas beaucoup. Lorsque vous amenez l'actualité qui se télescope avec ce que nous, musiciens et philosophes...
Rélema, qui est en votre compagnie.
Comment ?
Oui. Rélema.
Oui. C'est ça, musiciens et philosophes. Nous, musiciens et philosophes, nous essayons d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus profond pour tout le monde. C'est ça la radio. Et puis, vous coupez par des informations précieuses, mais qui pourraient être données dans l'heure d'après, peut-être, ou pas, ou un autre jour, je ne sais pas. Cela veut dire que dès qu'il y a philosophie, on serre, on limite. Dès qu'il y a philosophie et réflexion sur la musique et la philosophie, qui vont ensemble, on serre, on censure, on arrête, on écrase. Je proteste.
Oui.
Je proteste.
Robert Misraï, nous aussi, nous protestons, car tous les jours, le journal de la culture de Zoé Spez a lieu à 19h30, que ce soit de la philosophie, de la musique ou du cinéma.
Le but étant que parfois, certains ont envie de réagir sur des actualités qui sont juste culturelles. Mais on entend tout à fait ce que vous dites.
Mais je vous propose qu'on reparte à propos de philosophie et de musique, oui. Et en philosophie et en musique, sans plus attendre.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer. Quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante.
Nous revoici enfin. Oui. En compagnie de la philosophie et de ses amis, amis de la sagesse, Ray Lema et vous, Robert Misraï, qui êtes venu à notre rencontre ce soir avec deux essais sous le bras. L'essai intitulé « Les voies de l'accomplissement chez Encre Marine » et « Intensité, lumière sur les petits bonheurs de la vie quotidienne et des loisirs » aux éditions Le Bord de l'eau. Vous connaissiez le texte par cœur, je vous voyais murmurer, fredonner presque cet extrait de la pensée et des écrits de Spinoza qui... Oui. sont extraits d'une émission de France Culture signée Colette Fellous, qui était Une vie, une œuvre, intitulée « Vivre avec Spinoza ».
Oui, quelle est la question ?
Vous vivez, et c'est le cas dans cet essai Intensité, la vie quotidienne avec Spinoza. On a l'habitude de dire qu'il est d'une lecture et d'une approche difficile. Pour vous, c'est plutôt un compagnon des plaisirs, des grandes joies de la vie quotidienne.
Oui, mais pas le seul. Je ne me suis pas arrêté à Spinoza. On veut faire de moi simplement le spinoziste, oui.
Bon, il y a Marx aussi dans votre vie, il y a Buber, il y a Sartre.
Il y a Sartre,
il y a beaucoup de monde. Mais il n'y a pas que, vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire moi.
Et Mozart.
Robert Misraï.
Mozart et moi, d'accord. Mais
s'il n'en reste que deux.
Quand même, je veux préciser ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire n'est pas une insulte à personne, n'est pas non plus une déclaration démagogique, moi je suis moi, pas du tout. Ce que je veux dire est la chose suivante, c'est que aussi bien les grands compositeurs du passé que les grands philosophes du passé sont naturellement indispensables à notre formation. Mais maintenant, c'est-à-dire dans chaque présent de l'humanité, maintenant nous devons essayer d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est par exemple reconnaître que chez Spinoza, il y a un chant à la joie qui est précieux et dont il faut se souvenir, mais qu'il y a aussi l'affirmation inacceptable d'un déterminisme indépassable. Il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir du fait que, chez Sartre, il y a une affirmation splendide, phénoménale, de la liberté absolue, mais il faut aussi se souvenir qu'il ne nous dit pas vraiment comment faire quelque chose qui soit autre chose que la liberté, par exemple un bonheur d'être. Il faut se référer à tous nos philosophes passés, mais il faut les dépasser, grâce à eux d'ailleurs.
Vous nous emmenez, Ray Lema, au-delà
du jazz dans cet album s'appelle Headbug. C'est vrai que vous l'emmenez au Brésil, vous l'emmenez en Afrique, vous emmenez, on peut le dire, ce quintet hexagonal comme ça, ouvrir ses frontières. Vous prenez la liberté, en fait, toutes les libertés qu'impose la jazz attitude. Mais quand on entend Robert Mizrahi nous faire le parcours finalement philosophique et littéraire de son évolution vers l'affirmation d'une joie active contre l'affirmation de l'angoisse, vous, quel parcours vous avez fait justement peut-être de jeune jazzman et peut-être de musicien avant vers ce qu'on pourrait appeler la joie ?
Mon parcours vers la joie,
c'est... Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Qu'est-ce qu'il a semé ?
En fait, j'avais jamais voulu devenir musicien. Moi, je voulais devenir prêtre. Donc, je suis allé au petit séminaire. Et c'est là qu'on m'a fait des tests d'aptitude. On m'a collé une guitare en main, on m'a collé sur un orgue. Et ils ont décidé que j'étais un musicien. Et c'est comme ça que je suis devenu musicien. Et c'est seulement beaucoup plus tard que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais tiens, mais au fait, moi, j'avais voulu devenir prêtre. Maintenant, je me retrouve musicien. Donc, du coup, je me suis assis dans le désastre. Il fallait que je m'asseye dedans et que j'assume ça. Et aujourd'hui, je vis ma musique avec une joie immense. Parce que c'est ça que j'ai essayé d'expliquer
à Robert
que la musique n'est vraiment pas un art anodin. Parfois, quand on est pianiste, c'est un instrument qui est extraordinaire. Si vous tapez simplement une note avec la pédale ouverte et que vous restez à suivre les harmoniques de toutes les cordes qui se mettent à vibrer dans le piano, c'est déjà un phénomène extraordinaire à vivre. Mais ça demande un grand silence, ça demande des conditions très particulières qui font que c'est peut-être un plaisir un peu élitiste. Je sais pas. Je ne sais pas s'il faut appeler ça joie ou bien c'est un plaisir.
C'est la maîtrise du plaisir à donner, en tout cas.
Voilà, nous, c'est-à-dire nous tous ici,
oui.
Et puis en particulier, si vous voulez, les musiciens et les philosophes. Nous avons à apprendre à tous à passer des voix simples aux voix réfléchies, à passer de la simple, de cela qui est simplement instinctuel, bien se nourrir, bien se promener, à quelque chose de plus profond qui est une, à la fois une maîtrise intellectuelle de notre condition et une jouissance suprême et sublime de notre condition, c'est-à-dire la grande joie. Et je suis effondré, désolé, lorsque je vois tous les gens de bonne volonté, qui sont soit les artistes, soit les hommes politiques, tout le monde, la plupart des gens sont de bonne volonté, consacrer leur temps à de vaines polémiques, à de vains combats, au lieu de travailler à la réalisation de conditions qui permettraient la plus grande joie au plus grand nombre. C'est pas compliqué, la plus grande joie au plus grand nombre. C'est difficile à faire, ben alors faut s'y mettre.
Non,
personne n'y songe, tout le monde se fait la guerre.
Ça veut dire, Robert, nous, en tout cas au Congo, nous avons un autre concept. Nous croyons que dans chaque humain, il y a deux êtres. Il y a le Robert que nous regardons, il y a un autre Robert à l'intérieur du Robert que nous regardons qui est le Robert spirituel, pourrait-on dire, et les deux n'ont pas le même âge. On peut avoir un Robert très jeune, avec un Robert physique très jeune, avec un Robert spirituel qui est déjà un vieil homme qui a déjà vécu plein d'expériences. Et l'inverse aussi. On peut avoir un vieux Robert, mais qu'à l'intérieur, il y a un bébé Robert. Le Robert spirituel est un enfant, mais alors, il faut le regarder avec beaucoup, beaucoup de gentillesse et de commisération, parce que c'est un enfant, et vous ne pouvez pas, obliger un enfant à comprendre certaines choses.
Vous voulez dire que ce sont les enfants spirituels qui se font la guerre quand les philosophes et les musiciens sont des hommes d'expérience dans leur esprit?
Non.
Attention, l'élève Martin Guénel.
Je veux intervenir.
Oui,
tout d'abord,
allez-y.
La chose la plus importante, c'est que vous me redisiez votre prénom.
Je m'appelle Ray.
Ray.
Oui.
Bien.
Raymond, en fait. Hein.
Raymond.
Je veux dire Raymond.
D'abord, merci.
Je vous en prie, pourquoi ?
Voilà, pour tout ce que vous venez de dire. Mais d'autre part, c'est surtout pour dire le d'autre part que j'interviens, vous devriez lire ma... Le mot m'échappe. Quand on raconte sa vie, mon
autobiographie.
L'autobiographie.
Et le rocher. Vous devriez lire mon autobiographie.
D'accord.
Vous verriez si je suis le petit bébé qu'on doit accompagner.
Il y en a deux, des Robert.
Non, il y en a deux. Hein. Il se peut que...
Mais ça, c'est très fort, ce que vous dites. C'est très fort. C'est très sympathique. Là, on est dans la compréhension. On est dans le travail commun de conduire l'humanité un peu plus loin. Et le plus loin, c'est pas la puissance, c'est la joie. Mais quelle joie? Pas n'importe quelle joie. Pas la joie de gagner à la loterie. La joie d'exister. Avec les autres.
Mais oui, mais la joie dépend, ce que je viens de dire, c'est pour dire que la joie dépend du niveau de conscience.
Oui,
il y a la joie du bébé et la joie du vieillard, c'est deux joies complètement différentes.
Mais à cet égard, il me semble que vous êtes d'accord sur le fait, peut-être assez spinoziste, qu'il y a besoin de travailler pour atteindre cette joie. Il faut apprendre, vous travaillez pour cette université musicale africaine qui vous tient à cœur, Rélema. Vous êtes un professeur émérite, Robert Misrahi. Donc pour chacun, vous savez que il faut une exigence et il faut un travail d'éducation pour parvenir à cette
Alors,
joie.
Je vais ajouter une chose pour enfiler exactement sur ce que vous venez de dire. Ce travail que nous avons à faire, nous, musiciens et philosophes, reste dans le vide s'il n'est pas relayé. Relayé par qui? Ben par vous. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité telle qu'il est désolant de vous l'avoir gâchée. Quand vous avez une heure à vous d'émission, gardez-la bien. Gardez-la bien, vous laissez pas ronger par les émissions.
On y travaille, je l'espère, on y travaille.
Je n'ose sonner la fin de cette émission pour rencontrer Robert Misrahi. J'ai envie de garder l'antenne, vous nous emmenez vers le piratage, enfin.
Le piratage.
La piraterie.
Absolument.
Enfin,
parce qu'il est déjà là, il est déjà là pour dire quelque chose. Hein.
Bon, malheureusement, je dois le sonner. Ping-pong. C'est déjà fini et c'est insupportable.
C'est déjà fini.
Ça a été une très grande joie, disons-le, supérieure.
Il y avait encore plein de questions.
Il faudra revenir. Il faudra revenir pour encore des heures qui ne sont pas tout à fait des heures
et qui
sont riches comme des heures.
Moi, je voudrais bien faire un dialogue. Oui. Vous pouvez pas.
Mais on continue hors antenne déjà, et puis on va vous proposer quelque chose sur les internets au moins.
Rélema, rappelons-le, vous étiez à nos côtés, en particulier pour nous présenter Headbug, votre nouveau disque paru sous le label One Drop, et que vous donnez à découvrir aux Parisiens. Aux Parisiens et à tous ceux qui voudront bien se rendre à Saint-Germain-des-Prés dans le cadre du festival de jazz de ce quartier bien connu le 26 mai. Quant à vous, Robert Misrahi, on peut découvrir et prolonger les réflexions que vous nous invitez à entamer en lisant vos nouveaux essais Intensité, Lumière sur les petits bonheurs de la vie quotidienne et des loisirs, c'est aux éditions Le Bord de l'eau, et Les voies de l'accomplissement chez Encre Marine.
Et pour réécouter le titre Matongué qu'on a entendu en live tout à l'heure, hein, Rélema, il faut entendre l'album Herbie Coquin, VS N-O-P. Le ping-pong est une joie active et radiophonique qui se construit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. À la prise de son ce soir d'Ophar Guéride et Élise Le.
Mais quand sera-t-il lundi, Mathilde, dans notre émission qui ne dure pas tout à fait une heure, malheureusement?
Lundi, la création artistique émergente avec le 61e salon de Montrouge et une chorégraphie de l'effacement à Chaillot.